mode d'emploi.
Bonjour et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes d'Attaque et du journal Le Piaf.
Et le thème de l'émission aujourd'hui, ce sera la formation pour les migrants, plus exactement l'accès à la langue française, ce qu'on appelle l'alphabétisation. Et pour cela, nous recevons Marion Aguilar pour son ouvrage Maclé Alpha, qui est très bien fait pour destiner à une formation pour des adultes. Elle est elle-même formatrice de formateurs pour ce genre de bénévoles ou de professionnels de l'apprentissage. Et nous recevons aussi Florine Audio, qui est enseignante en UPE2A, une classe spécialisée pour l'accueil justement des non-francophones dans l'école primaire, et qui est aussi bénévole à l'association qu'on appelle le Chapiteau à Saint-Denis, qui s'appelle en fait l'association Ragnawak. Mais nous n'allons pas commencer par cela, nous allons commencer, comme d'habitude, par les interviews d'actualité, les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Mais en absence de Jean-Marc, Jean-Marc s'est enregistré de chez lui, et nous allons l'écouter. Sa première chronique s'appelle « Macron artiste ».
Eh oui, nous avons beau être accoutumés à l'emphase ridicule du président, à son côté cabotin, sa prétentieuse et coûteuse itinérance mémorielle vire cette fois au grand guignol, encore plus que d'habitude. Les images officielles retransmises par exemple les béatements en direct par BFM, c'est déjà une référence de qualité, des mises en scène jupitériennes avaient quelque chose d'exaspérant au premier abord. Mais, en coupant le son, cela devenait une œuvre comique, peut-être même une œuvre attendrissante. Le petit bonhomme de président, surjouant le scénario comme un méchant dans un film muet des années 20, ou comme un méchant, encore une fois un méchant, dans un bon petit Bollywood d'aujourd'hui, dans un paysage bucolique d'après-guerre, le même dans l'ossuaire, le même devant un monument aux morts, tout cela était risible ou pitoyable. J'ai presque été attendri cependant. J'ai vu que derrière le président de fer, derrière le banquier d'acier, derrière l'ami indéfectible des riches, derrière la machine à broyer et à mépriser les pauvres, se cachait un petit garçon, un adolescent du club théâtre, certes pas très doué, qui en fait trop, beaucoup trop, et se prend un peu trop au sérieux, mais ça on le savait déjà, avec tellement de bonne volonté et tellement la rage de bien faire pour qu'on l'admire enfin, que j'en fus presque ému. Bien entendu, il est très mauvais. Trop rigide, trop emprunté, trop tout. Pas crédible un instant, pas naturel pour un sou. Mais on sent qu'il essaye, qu'il se donne à fond, comme un type qui chante comme une casserole mais qui adore le karaoké. Finalement, ce petit président, tellement donneur de leçons, tellement cabotin, tellement prétentieux, n'est-il pas qu'un éternel adolescent mal dans sa peau et en recherche permanente de reconnaissance ? Un histrion sans talent, mais qui ne peut accepter la triste vérité, d'autant plus que son entourage cherche à le lui dissimuler. Le problème, c'est que cette hypothèse, comprise entre Paris Match, Gala et la psychanalyse de comptoir, serait presque drôle si le petit bonhomme n'était pas président. Vraiment président.
J'aurais voulu être un artiste.
Ah, pétain de bordel. Jupiter président, Jupiter historien, Jupiter professeur. Avec Macron, on a un peu l'impression de retomber dans les années 60 avec la série des Martines. Martine à la ferme, Martine infirmière, Martine en vacances. Bref, Martine tout le temps, et là maintenant c'est Macron tout le temps, et on commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Revenons-en à Jupiter historien. L'historien qui sait tout mieux que tout le monde, et même mieux que les historiens eux-mêmes. Il a encore fait très fort cette semaine en voulant faire l'original. Le buzz assuré. Peut-être un contre-feu contre le feu pétrolier qu'il a lui-même allumé il y a 15 jours. Ce feu, c'est le feu de la commémoration de 1918 avec la commémoration des maréchaux. Pas tous très reluisants, mais en particulier du moins reluisant d'entre eux, Pétain, en voulant faire un distinguo subtil entre le Pétain de 1916-1918, qui n'était jamais qu'un fumier et un boucher comme tous les autres généraux de la Première Guerre mondiale, cela dit en passant, et il s'est encore pris les pieds dans le tapis, le pauvre Emmanuel. Ah, depuis qu'Alexandre n'est plus là, pour le chouchouter et le seconder, rien ne va plus. Il est tout déboussolé, le petit Emmanuel. Bref, Pourtant, au départ, c'était une bonne idée de communicant. Un peu comme de fêter Landru, parce que, avant de cramer des gonzesses dans sa cuisinière, c'était un homme charmant et délicat. Il écrivait des poèmes aussi, paraît-il. Un peu comme de parler positivement de l'étrangleur de Boston, parce que ce gentil père de famille, quand il n'était pas en crise schizophrène, collectionnait pacifiquement les timbres, paraît-il également. Un peu comme de féliciter Bachar el-Assad. Parce qu'on ne le dit pas assez, il faut être juste. Avant de tuer, massacrer, faire torturer son peuple, il était médecin. Donc c'était quelqu'un de bien. On pourrait peut-être célébrer Bachar et inviter le Bachar médecin à Paris pour, en faisant le distinguo avec le Bachar boucher d'aujourd'hui. Bref, tous ces hommes politiques, tous ces journalistes, tous ces citoyens qui ont protesté sont vraiment des êtres primitifs et sans discernement qui en veulent gravement à notre pauvre président. Et de toute façon, il faut bien le dire, ils n'arriveront jamais à la fulgurance intellectuelle de Macron Ier.
Et voilà, c'était les chroniques de Jean-Marc, sans Jean-Marc, mais avec Jean-Marc. Et nous continuons sur les chroniques d'actualité, et Gaël va nous parler de néocolonialisme en Afrique.
Eh oui. Si je vous dis néocolonialisme, vous pensez Jacques Foccart, Barbouzerie et compagnie. Eh bien ça, c'est l'ancien monde. Le néocolonialisme à la grand-papa était extra-légal, le néocolonialisme 2.0 est au contraire ultra-légal. On met au pas les pays du Sud via un nouvel ordre juridique, qui sont les accords de libre-échange dits de nouvelle génération. Alors jusqu'aux années 2000, les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, qu'on appelle les ACP, étaient régies par la Convention de Lomé depuis 1975, puis par l'accord de Cotonou en 2000. Et ces accords donnaient aux pays des ACP un accès facilité au marché européen, tout en les laissant appliquer des droits de douane plus élevés sur leurs importations de produits européens. C'est-à-dire qu'on avait des accords asymétriques, pour tenir compte des différences de développement. Et depuis les années 2010, l'Union européenne négocie avec ces pays des, je cite, « accords de partenariat économique », mais avec une conception très particulière du partenariat. Le premier objectif, c'est d'abaisser les droits de douane. Or, les taxes douanières constituent pour certains pays ACP une grande partie des recettes de l'État. Au Sénégal, par exemple, c'est environ un tiers du budget. Donc abaisser les droits de douane, ça signifie réduire des dépenses et des investissements utiles, comme l'éducation, la santé. Et surtout, si on ouvre sans limite les pays pauvres aux produits européens, eh bien on détruit un tissu économique balbutiant souvent, dont aucun acteur ne ferait le poids face aux géants européens. Le secteur le plus touché sera l'agriculture, qui occupe, selon les pays, entre 50 et 80% de la population, avec une productivité très inférieure à celle de l'Union européenne, qui en plus est subventionné. Donc ouvrir l'Afrique aux produits agricoles européens, c'est menacer à la fois l'économie locale et la sécurité alimentaire, puisqu'on rendrait ces pays dépendants des importations alimentaires. Le deuxième objectif de l'Europe dans ces accords de libre-échange, c'est de faire des accords dits de nouvelle génération, un peu comme ceux qu'on fait avec le Canada, les États-Unis ou le Japon. C'est-à-dire des accords qui régissent non seulement le commerce des biens, mais aussi les services, la protection de l'investissement, les règles de concurrence et les marchés publics. Bref, il s'agit d'imposer à l'Afrique, par le droit, les règles de l'orthodoxie néolibérale, encore plus que ne l'avaient fait les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Alors, comme on peut s'imaginer, les pays ACP, donc Afrique, Caraïbes et Pacifique, sont très réticents à signer ces accords. Mais depuis 2016, l'Union européenne fait des chantages pour accélérer la signature. Par exemple en menaçant de réduire l'aide au développement ou en rétablissant des droits de douane sur les exportations de l'Afrique vers l'Europe, des droits de douane donc qui avaient été réduits par les accords de Cotonou et la Convention de Lomé. L'objectif de l'Union européenne là-dedans, c'est de faire signer rapidement des accords de libre-échange qui permettraient à l'Europe d'exporter sans restriction vers l'Afrique et d'y investir sans risque. Et le chantage a bien fonctionné puisqu'aujourd'hui presque tout le monde a signé, sauf le Nigeria, qui est quand même un poids lourd de la région. Et ça, c'est grâce au patronat nigérian qui est opposé à ces accords de libre-échange. Quant aux pays de l'Afrique du Nord, eux, ils ne font pas partie des ACP. Les ACP, c'est uniquement les pays d'Afrique noire, on va dire. Mais ils ont aussi leurs accords de libre-échange avec l'Union européenne. Par exemple, avec la Tunisie, on a un accord d'association signé en 1995, mais qui concerne uniquement les produits industriels. Et depuis 2016, on négocie l'ALECA, accord de libre-échange complet et approfondi. Le premier round de négociation a eu lieu en 2016 avec une pause jusqu'en 2018. Et là, l'Union européenne veut accélérer le processus de manière à signer l'accord au premier semestre 2019. Pour l'instant, il reste à négocier le secteur agricole, qui est la partie la plus problématique de l'accord. Alors, dans cet accord, ce que les Tunisiens essayent de négocier, c'est une mobilité accrue, notamment dans les services, avec une facilitation des visas de professionnels. Ce que veut l'Union européenne, c'est un accord global qui impose les règles du libre-marché dans tous les domaines. Agriculture, services, investissement, e-commerce, énergie, normes sanitaires, marchés publics, propriété intellectuelle. Alors, comme dans le reste de l'Afrique, on a un risque de destruction de l'agriculture tunisienne, puisque 80% des exploitations sont très petites, elles font moins de 10 hectares, et en général, les exploitations ont une productivité 7 fois moins importante que celle de l'Union européenne. On a aussi un risque de spécialisation de l'agriculture vers des produits d'exportation, avec comme conséquence une grosse pression sur l'eau, sachant que la Tunisie est un pays avec un grand stress hydrique. Et selon une étude du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, le FTDES, l'accord avec l'Union européenne pourrait causer en plus la perte de souveraineté alimentaire. Je cite le rapport, la production de céréales pourrait disparaître face à des concurrents comme nos céréaliers, ce qui implique que le pays sera dépendant des marchés internationaux pour acheter ce qui constitue la base de son alimentation. Or, sur le marché international, le prix peut monter rapidement et fortement, pesant sur les finances de l'État et ou sur l'insécurité alimentaire d'une partie de la population. Donc, par tous ces accords de libre-échange, que ce soit avec les pays ACP ou avec l'Afrique du Nord, l'Union européenne prépare l'exode rural et les migrations de demain, au moment même où elle se transforme en une forteresse inaccessible aux migrants. Alors tout ça, c'est pas très cohérent, mais on a pensé à tout, puisque dans l'ALECA, par exemple, on veille bien à réserver la libéralisation des visas aux diplomates, aux chefs d'entreprise, aux professeurs d'université, c'est-à-dire aux bons migrants. Et pour les immigrés lambda, on prévoit des accords de réadmission. Il s'agit de renvoyer vers la Tunisie des migrants non tunisiens qui seraient arrivés en Europe en passant par la Tunisie. Et ça, ça vaut aussi avec le Maroc. Donc dans tout ça, il y a un métier qui ne connaîtra pas la crise, c'est celui de passeur ou de fabricant de barbelés.
Eh ben, c'est pas très réjouissant sur l'avenir de l'immigration en Europe, mais pourtant, on pourrait les accueillir, ces migrants, on pourrait leur chanter la Marseillaise, enfin pas la Marseillaise qu'on connaît, non, la Marseillaise par Jamel Djenidi. Et ce soir, nous avons dans notre studio deux personnes, Marion Aguilar qui vient nous parler de son livre « Ma clé alpha » et Florine Odio qui, elle, est plutôt une utilisatrice de cet ouvrage. Alors cet ouvrage, on va commencer par le décrire, mais d'abord, bonjour Marion.
Bonjour.
Et bonjour Florine.
Bonjour.
Alors cet ouvrage, « Ma clé alpha » est aux éditions Scolibris. Scolibris, on les a déjà reçus dans cette émission il n'y a pas si longtemps, c'était même en début 2018, où l'on a parlé de cette boîte d'édition qui s'intéresse énormément à la formation et typiquement dans les pays africains à l'origine, et puis qui là fait un ouvrage qui s'adresse plus, même davantage, aux pays francophones. Alors on me montre qu'il n'y a pas que Scolibris en éditeur, il y a aussi les éditions RETS. Dans cette logique, en tout cas, Ma clé alpha, c'est un ouvrage qui est facile d'accès, même pour peut-être un peu la clé de cette émission, c'est de se dire si un jour vous avez à apprendre le français à quelqu'un dans votre entourage, ce livre-là, il est fait pour vous, parce qu'il est à la fois bien pensé et bien pratique. Alors on va laisser peut-être Marion décrire son ouvrage.
Alors vous avez deux outils dans Ma clé alpha. Un premier ouvrage qui est une méthode d'apprentissage de la lecture-écriture pour les adultes d'origine étrangère qui ont été peu scolarisés ou pas du tout scolarisés dans leur pays d'origine. Et il vise en fait à faire progresser ces personnes sur des écrits de la vie quotidienne. Il se compose plus d'une vingtaine de thèmes ancrés dans la vie quotidienne. Donc ça se passe dans la rue, c'est un milieu très urbain, ça se passe, on peut avoir des situations à la poste, dans la rue, à la banque, dans des services publics. Et l'idée de Maclay Alpha, c'est de découvrir les sons et d'apprendre ce qu'on appelle la correspondance du code graphie-phonie en contexte, dans des contextes de porteurs de sens pour les adultes en apprentissage. Et l'originalité de Maclay Alpha, c'est qu'elle part de l'oral pour aller vers l'écrit. Parce que Maclay Alpha est en fait issu d'une expérience d'observation d'un projet pilote en Île-de-France où on a observé pendant plusieurs années comment apprenaient ces personnes-là. Et on s'est aperçu que l'oral était extrêmement important. Donc dans Maclay Alpha, il y a beaucoup d'exercices oraux. Alors c'est le premier outil de Maclay Alpha, donc c'est un manuel qui est violet, qui est là pour aider les apprenants et les formateurs. Et vous avez un deuxième outil qui est un cahier vert, qui est un apprentissage de l'écriture script. Parce qu'avec Maclay Alpha, on a fait le choix d'enseigner l'écriture script aux adultes, qui est plus en phase avec leurs besoins à l'ère du numérique et du troisième millénaire. Donc nous, on n'enseigne pas du tout l'écriture en cursive en attaché, celle des écoles. Voilà. Et puis on a également un site compagnon sur Internet qui est là pour aider les formateurs, qui est sur le site scolibris.fr, donc qui est tout un tas de fiches pédagogiques ressources, de sites de jeux aussi également ressources que l'on peut imprimer et qui sont en rapport avec l'ouvrage.
Et je crois qu'il y a un CD aussi avec le livre.
Tout à fait, il y a un CD qui est aussi téléchargeable gratuitement sur Internet et qui accompagne la méthode qui se base donc, qui part justement de dialogue de la vie quotidienne pour aller vers la découverte de l'écrit et faire progresser les personnes sur des tâches très concrètes d'écriture et de lecture.
Alors on peut peut-être prendre un exemple, parce que quand on dit très concret, on dit des fois les enseignants ils sont concrets, mais ça s'arrête là. Là c'est vraiment
alors,
concret.
Alors c'est apprendre à remplir des formulaires de toute nature, à recopier une adresse sur une enveloppe, et pour certaines personnes qui n'ont jamais été à l'école, tous ces écrits sont extrêmement difficiles. C'est apprendre à lire des SMS de rendez-vous, apprendre à noter un rendez-vous. Donc ce sont des tâches d'écriture qui semblent très faciles pour les gens scolarisés, mais qui sont des grands pas pour des personnes non scolarisées.
Et alors c'est pas non plus un cahier de vacances, hein. Derrière il y a une réflexion, je crois bien.
Alors ce n'est pas du tout un cahier de vacances, c'est la réflexion est vraiment comment en quelques heures, parce que Maclay Alpha, l'idée c'est que ce soit un fil conducteur pour les formateurs qui aident ces personnes-là dans leur apprentissage. Mais derrière, il y a la véritable objectif qui est de l'entrée dans la lecture et écriture des adultes qui en ont besoin et qui ont des urgences très précises.
Et ce que je voulais dire par ma petite blague, c'est que, parce qu'on pourrait dire pour un adulte, quelle que soit sa langue, il va comprendre le principe, mais c'est pas le principe qu'on lui apprend, c'est vraiment la langue et rentrer progressivement dans la langue.
C'est ça, c'est la langue orale d'abord, parce que sans un minimum de niveau à l'oral, il est difficile d'apprendre à lire et à écrire, et ce sont des choses de la vie quotidienne, être capable de prendre rendez-vous par téléphone, de demander son chemin dans la rue, avec la lecture, si je prends la rue, des panneaux de la rue, et se repérer dans la rue. Donc c'est des choses très très concrètes.
Mmh. Donc c'est le fruit d'une expérience, tu disais tout à l'heure.
Oui, alors on a monté dans le 18e arrondissement de Paris un projet pilote qui avait été financé, soutenu et sans beaucoup par la région Île-de-France, où on a pu expérimenter ça auprès de jeunes adultes pour voir comment ces personnes apprenaient, pourquoi certaines méthodes d'apprentissage à la lecture ne marchaient pas avec eux. Bon, et on s'est aperçu que on avait aussi dedans ces publics-là des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le français à l'oral. Donc on peut avoir dans un même groupe des personnes qui parlent très bien français comme des personnes qui ne parlent un tout petit peu ou même pas du tout français. Donc comment faire avec cette grande hétérogénéité? Et l'idée de Maclay Alpha, c'est d'avoir une entrée thématique commune pour après adapter les objectifs de chacun. Voilà.
Et donc c'est de cette expérience que vous avez fait peut-être, enfin, je sais pas, on dit souvent ça en pédagogie, ça faut surtout pas le faire. C'est-à-dire que vous avez aussi appris par le.
On a observé surtout, c'est en apprenant, c'est en observant comment ces personnes apprenaient, notamment l'importance de l'oral, l'importance de comprendre les choses à l'oral avant de les voir à l'écrit, que finalement on a beaucoup progressé. Et en s'appuyant sur cette mémoire auditive, en faisant tout un tas d'exercices, par exemple de segmentation des phrases en mots à l'oral, tout un tas de choses, de mécanismes à l'oral, ces personnes, lorsqu'elles voient les segments écrits, c'est beaucoup plus facile pour eux d'entrer dans l'écrit. Donc oui, cette observation a été vraiment nous a enrichi. Et donc c'est vraiment venu de cette observation-là.
Donc c'est une observation de terrain, qu'on appelle parfois un retour pratique, hein, venant des migrants. Et il y a quelques anecdotes, je sais pas, des choses qui ont fait dire, tiens, voilà ce que je vais faire, un jour je vais faire ce livre, parce que il faut plus que personne fasse ça.
C'est-à-dire qu'il est très difficile, il faut savoir que c'est très difficile de publier pour ces publics-là. Ça intéresse très peu, c'est pas des marchés suffisants pour les éditeurs qui sont plutôt tournés vers les étudiants des alliances françaises. Donc ça a été voilà, l'objectif était quand même d'aider et les apprenants et les formateurs qui passent des heures énormes à passer à préparer leur leur formation. Des anecdotes, j'en ai plutôt pour des retours d'expérience de Maclé Alpha qui sont intéressants. On a des personnes qui nous ont écrit comme quoi maintenant ils arrivaient à remplir des chèques, parce que dans les l'ouvrage de Maclé Alpha, il y a dans les rabats justement la possibilité d'apprendre à remplir des chèques en autonomie, des retours aussi d'expérience de personnes qui envoient aussi les dialogues par WhatsApp, puisque les apprenants le demandaient, ou d'autres personnes qui, des migrants qui dorment dans la rue mais qui demandent à emmener le livre dans leur riz, chez eux, donc on ne sait pas, mais qui reviennent très motivés. Voilà, donc c'est rassurant pour eux aussi et ça fait un fil conducteur pour les formateurs.
Donc voilà, on sent beaucoup d'utilisation et d'utilité à cet ouvrage. Il faut quand même un peu dire peut-être que les cours d'alphabétisation, ça, il y en a peu, j'imagine, pas assez peut-être, mais il y en a quand même une grande diversité. Beaucoup de villes, même de petits villages, ont quelqu'un qui a des voisins qui parlent pas bien français ou qui ont des difficultés et qui ça existe depuis certainement des décennies en France, de dire tiens ben allez, on va s'asseoir dans ma cuisine et puis je vais te guider un petit peu. Ça peut être des vagues d'immigration qui étaient peut-être portugaises avant, qui sont aujourd'hui du fin fond du monde, mais on retrouve cette même état d'esprit. On le trouve dans des établissements évidemment associés à des cas militants, dans des villes où il y a beaucoup d'immigration et où des bénévoles militants le font. On le trouve aussi, faut le citer, dans des écoles par exemple de confession catholique qui essayent de donner peut-être par esprit de charité des cours depuis très longtemps aussi. Et puis, il existe aussi quand même des formations plus officielles de l'État français, entre autres pour l'aide non pas à tous les migrants, on n'ouvre pas la porte à tout le monde, mais on en est de merde, on ouvre la porte à ceux qui ont un statut de réfugié. Et eux, il y a des cours plus officiels.
Hein. Oui, il y a des cours qui sont dispensés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI. Et là, par contre, ce sont des groupes extrêmement hétérogènes où le FLE et l'ALFA, tout est mélangé, donc c'est un peu compliqué pour les formateurs. Mais oui, des étrangers, des migrants, il y en a devant tout, que ce soit le petit village actuellement, les grandes villes. Donc il y a besoin de créer des outils pour les accompagner.
Et donc des outils, on les utilise aujourd'hui, mais on les utilise aussi demain. Demain, on écoute les Fabulous Troubadours.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, vous écoutez Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires.
Et nous étions, et nous sommes toujours avec Marion Aguilar, qui nous a parlé de son ouvrage Maclé Alpha, qui s'adresse à tous les bénévoles, à tous les professionnels de l'apprentissage du français aux migrants, pour être capable, grâce à son livre de manière très pratique, d'apprendre aux autres à se débrouiller, on va dire, mais peut-être même un jour de parler en langue française. Alors tout ça, c'est un ouvrage, mais c'est aussi une réflexion qui a des noms un peu scientifiques. On parle de FLE, de FLS, de MNLE, et on serait un petit peu intéressé que tu nous expliques un petit peu tout ça.
Alors, ces notions de... quelques catégories de publics, on va dire. Le français langue étrangère, c'est pour en rapport avec les publics qui ont été scolarisés dans le pays d'origine, ou c'est vous, par exemple, si vous avez été scolarisé en France, qui allez étudier le chinois en Chine. Et puis, vous êtes dans la même situation d'apprentissage d'une langue nouvelle, d'une écriture nouvelle, d'une culture totalement nouvelle. Donc les personnes que nous accompagnons en France sont dans cette situation-là, elles ont été scolarisées, mais elles ont des habitudes scolaires. En alphabétisation, ce public dit en alphabétisation, ce sont des personnes qui n'ont pas été scolarisées dans le pays d'origine et ou jusqu'à moins de 5 ans, et donc ils n'ont aucune habitude scolaire. Ça va de « je ne sais pas tenir un stylo », »,« je ne sais pas trier mes papiers ni les classer », même une consigne est compliquée, c'est pour ça qu'il faut des pictos de consigne. Donc tout est compliqué au niveau de l'écrit, surtout dans notre société hyper scripturalisée. Voilà, à la française, le FLS, alors le FLS c'est du français langue seconde, donc c'est des personnes qui ont grandi dans un pays aussi où le français était quand même enseigné, où certains, on met dans cette catégorie aussi des publics qui ont été jusqu'au collège. Voilà, donc en fait il y a tout un tas de catégories de publics, mais il ne faut pas vous effrayer, il faut venir dans les associations justement qui donnent des cours d'alphabétisation pour voir que c'est très concret et surtout que c'est très c'est d'une richesse humaine incroyable. On voyage en accompagnant un groupe. Voilà, et donc nous les associations sont plutôt sur des publics qui sont pas encore, qui sont soit en amont ou qui interviennent après les dispositifs des formations professionnelles proposées par l'OFI. Donc tout ça est une espèce de chaîne de maillage de territoire très complexe et très riche. Voilà, pour lequel les rencontres humaines sont toujours passionnantes.
Et donc, par exemple, je sais que la mise en œuvre dans certaines des associations, quand il y a beaucoup de migrants, c'est qu'ils peuvent un peu classer, hein, c'est une méthode communautaire pour avoir des groupes un peu homogènes, par niveau. Donc je crois qu'il y a des niveaux où on essaye d'apprendre des choses un peu différentes d'un groupe à l'autre.
C'est ça, on se cadre sur un cadre, le cadre commun de référence, où il y a différents niveaux. Vous avez le A1, le A2, le B1, le B2, C1, C2, c'est des publics là qu'on n'a pas, qui sont les universités. Et la France a une spécificité, c'est le A1.1. Alors tous ces niveaux ont été créés pour faciliter la mobilité des étudiants à l'étranger, par exemple l'étudiant français qui part étudier en Allemagne, et inversement, ou l'allemand qui vient étudier en France, on veut savoir quel niveau de langue il a. Et les étrangers actuellement que l'on accueille doivent atteindre un certain niveau de langue pour pouvoir rester sur le sol français. Les lois d'immigration étant de plus en plus contraignantes, on exige des niveaux toujours plus hauts. Donc actuellement, on exige que tout le monde ait le niveau A2. Mais pour les publics non scolarisés, on exige qu'ils aient le niveau A1.1 écrit. Donc qui est quand même un niveau assez costaud. Il faut quand même 400 heures pour un public non scolarisé pour les atteindre. Et pour les publics scolarisés, ces niveaux-là, bon, le A1.1, on l'atteint assez facilement, en peu d'heures.
Et il y a même des associations qui donnent un objectif diplômant. Enfin, on aime beaucoup les diplômes en France. Donc on est
très attaché au diplôme, tout à fait. Il existe donc à chaque niveau un diplôme. Par exemple, A1.1, c'est le DILF, diplôme initial de langue française. Dans Maclay Alpha, on prépare également. Sur le site internet, il y a un DILF blanc justement qui prépare à ce diplôme. Pour le A1, vous avez le DELF A1. Pour le A2, vous avez le DELF A2. Et donc tout ça, vous pouvez retrouver des informations sur le site du CIEP, qui gère donc tous ces diplômes.
Alors, tu parlais de gens non scolarisés qui en plus ne parlent pas le français au départ. Ces gens-là, on leur enseigne simultanément à parler français et à écrire, et quelle difficulté ça pose?
Idéalement, il faudrait au moins des modules de 250 heures avec que de l'oral et du théâtre, et puis après passer à l'écrit, pour qu'ils atteignent très vite un niveau A2 à l'oral. Sauf que actuellement, que ce soit les organismes de formation ou les associations, nous n'avons pas ces 250 heures dédiées uniquement par l'oral, et très vite, la personne d'origine étrangère est passée dans la situation d'adulte où elle doit remplir des formulaires, et elle doit avoir des tâches d'adulte à réaliser. Donc nous, avec Maclay Alpha, on fait le choix de travailler les deux de front. Voilà. Maclay Alpha, c'est aussi une méthodologie, c'est-à-dire que c'est une méthode actionnelle et communicative d'apprentissage à lecture-écriture, c'est-à-dire qu'on va relier l'oral, voilà, pour aller vers ces tâches d'écriture. C'est nécessaire. Et en fait, finalement, ça leur correspond assez bien.
Donc on entend là que tu as quand même une professionnelle de cet apprentissage. Tu peux nous dire un petit peu le parcours qui t'a amené jusqu'à ce quotidien?
Alors, c'est des rencontres humaines, parce que au départ, j'étais partie pour être enseignante d'histoire, et puis en passant, justement, les fameux diplômes, comme l'agrégation, j'étais bénévole dans une association, et là, je travaillais sur les problématiques interculturelles, et je me suis retrouvée face à un groupe où j'avais 15 nationalités différentes. Et je me suis dit, mais c'est ça l'interculturalité en acte, donc je vais reprendre les études qui m'intéressent, d'autres études. Et j'ai donc repris tout le cursus universitaire pour refaire ces études donc de didactique des langues.
Donc c'est par la pratique que tu es arrivé jusqu'à...
Toujours, par la rencontre humaine, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnes de différentes cultures, ça donne envie de continuer ces rencontres.
Alors, on peut peut-être mettre dans la boucle Florine, qui est aussi sur le plateau. Et bienvenue, Florine.
Merci.
Donc, Florine Audio, tu es enseignante en primaire, ce qu'on appelle, mais plus exactement en UPE2A. C'est des classes d'accueil aux enfants 6-10 ans qui viennent en France sans avoir la pratique de la langue française, mais qui peuvent être à peu près scolarisés, j'imagine. Et ils sont mis au quotidien dans l'école, ils sont leur maîtresse ou leur maître, et puis ils sont partis dans la journée rassemblés avec toi pour que tu leur apprennes à parler principalement le français, puis s'adapter à la vie de l'école.
Voilà, il y a trois missions dans l'UPE2A, c'est la compréhension du système éducatif français, l'inclusion au groupe classe, et bien sûr la maîtrise de la langue française.
Et tu es aussi syndiqué au syndicat SMIPP, on approche des élections, on a fait de la pub, il ne faut jamais de politique, c'est pas possible. Et puis tu es aussi bénévole à tes heures perdues, hein, parce qu'une journée d'enseignant c'est déjà long quand on en rajoute. Hein. Et tu es bénévole à l'association qu'on appelle souvent à Saint-Denis le Chapiteau, mais qui ne s'appelle pas le Chapiteau en fait.
Alors c'est l'association Planche Courbe, mais communément à Saint-Denis, puisque c'est une association assez connue à Saint-Denis, on l'appelle le Chapiteau Rajganawak. Donc c'est une association à mi-chemin entre une salle de spectacle et une maison de quartier où il y a régulièrement des spectacles, à peu près une à deux fois par mois, des cours de cirque, des cours de yoga, des cours de boxe féminine et des cours de boxe pour enfants. Et en plus de ça, il y a aussi des cours de français pour adultes.
Alors c'est pour ces cours de français pour adultes que tu es là sur le plateau, pour échanger peut-être aussi avec Marion sur la chose, parce que vous utilisez pour cette association justement le livre Maclé Alpha.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai découvert Maclé Alpha par une étudiante en FLE qui en avait entendu parler lors de ses cours, et on était avec un groupe assez homogène d'apprenants qui avaient entre 18 et 26 ans, qui venaient tous d'Égypte. Et on s'est confronté à quelques problématiques. Ils travaillaient 7 jours sur 7, la semaine sur un chantier, et le dimanche et le lundi sur les marchés. Ils habitaient pas forcément à Saint-Denis, donc c'était des apprenants très fatigués en fait. Et venir à un cours le soir de 18h30 à 20h30, c'était un sacrifice en énergie. Donc on est tombé sur cette méthode qui nous a tout de suite parlé parce que c'est très très concret. Et l'objectif, c'était qu'ils ressortent du cours avec des notions qu'ils pouvaient réutiliser. Donc, ces notions, elles sont vraiment en lien avec leur quotidien, avec leur vie quotidienne. Il y a, comme Marion l'a précisé, des thèmes comme remplir un chèque, se repérer, demander son chemin, écrire un SMS, avec vraiment une séance qui est construite autour de comment créer un SMS, avec des exercices progressifs où on mélange les mots, on remet les mots dans l'ordre. C'est très progressif. Et donc, ça nous a permis de tenir le groupe, de motiver le groupe et de rentrer assez vite en communication et de développer les pratiques langagières.
Alors vous avez beaucoup d'apprenants, comme on dit, d'origine égyptienne sur Saint-Denis, beaucoup d'hommes, je crois aussi, principalement. Mais tu as quelques anecdotes aussi d'autres types de personnes, quelqu'un qui vient d'Éthiopie, par exemple?
Oui, il y a une personne qui s'appelle Kado, c'est joli en plus comme prénom, qui était venue donc, pendant un mois, qui venait de Porte de la Chapelle et qui avait trouvé un logement temporaire à Saint-Denis. Donc elle est venue avec sa petite fille de 1 an et demi, et c'était un joli moment parce qu'elle laissait sa petite fille au propriétaire du chapiteau, et c'était vraiment 2 heures qui étaient consacrées à elle et où elle soufflait un peu. C'était un moment assez intime où on a beaucoup beaucoup échangé.
Et tu parles aussi de Moussa, qui travaille pas très loin du chapiteau.
Oui, Moussa, il est à la gare. Il vend des cartes lécales et il vient quand il peut. Il vient nous faire un petit coucou de temps en temps. Des fois, il reste à la séance complète. Mais on sent vraiment que c'est un attachement au chapiteau. Il vient dire bonjour pour garder le contact. Et ça nous fait plaisir. Et il reste... il reste comme il veut. S'il reste une demi-heure, on est content. S'il reste 10 minutes, c'est bien aussi. Mais c'est vraiment le chapiteau, un lieu de passage où, où les personnes se croisent et il y a un certain lien affectif à ce lieu.
Alors, tant qu'on parle de Saint-Denis, on peut quand même citer les deux autres associations, à ma connaissance, qui font des cours d'alpha. Marion, tu parlais
d'AlphaDep, qui est une association très engagée à Saint-Denis.
Qui est plutôt sur les quartiers de Plaine-Saint-Denis.
Plaine-Saint-Denis, oui.
Et il y a l'association associée au lycée privé, Jean-Baptiste de la Salle, qui propose depuis de longues années des cours aussi d'alphabétisation, qui permet d'avoir un accueil... on va dire de charité peut-être, par le lycée, qui propose le cadre de l'établissement, donc des vraies salles de classe, hein, donc un cadre qui est quand même très agréable pour tout le monde, autant les apprenants que les bénévoles, et qui peut comme ça accueillir plusieurs centaines, plus d'une centaine d'apprenants, et qui s'adresse par contre, l'objectif s'adressait à des personnes habitant Saint-Denis, et d'avoir un public qui est conséquemment un peu différent, avec dans un même cours des Égyptiens, des quelques Maghrébins, beaucoup d'Amérique du Sud, un petit peu d'Asie aussi, principalement Pakistan, ce qui fait parfois des cours complètement disparates, à la fois aussi des hommes, des femmes et des gens de tout âge, ce qui est assez prenant. Et pour ce qui concerne par contre la pratique de certes ces associations bénévoles, elles n'ont pas toutes le même objectif. Certaines ont pour objectif d'un accueil un peu plus large qui dépasse le cadre peut-être du français plus humain.
Socialisation.
Mmh. Et d'autres sont là pour vraiment faire le cours de français avec un petit bout de feuille à la fin du mois pour dire vous avez fait tant d'heures. Mais ce bout de feuille, il est quand même intéressant aussi pour le migrant, parce que celui qui veut monter un dossier au bout de 10 ans peut témoigner d'une volonté d'intégration, comme dirait un ministre ou un autre d'ailleurs, parce qu'ils se ressemblent un petit peu tous quand même. Voilà, mais on revient à Florine, et tu nous parlais des apprenants du chapiteau à Ragnawak, mais tu peux aussi nous parler peut-être des bénévoles qui y sont.
Oui, alors il y a beaucoup de bénévoles d'horizons différents qui portent vraiment l'association, qui sont bénévoles pour les spectacles, mais aussi pour les cours de français. Et on a besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'on essaie de faire par niveau. Et donc cette année, le cours a pris un petit peu plus d'envergure, donc il y a 3 niveaux. Et on essaie d'être environ 1 ou 2 profs pour 6 ou 7 élèves.
Et donc ces bénévoles, c'est... Bon là, tu t'es présentée en tant qu'enseignante, on a l'impression que c'est donc uniquement des enseignants qui sont bénévoles.
Non, pas du tout. Il y a une ostéopathe, des étudiants... des coordinateurs d'associations, il y a des professions différentes.
Alors nous, ce qu'on observe dans le 18e arrondissement de Paris, c'est que beaucoup de personnes déçues du monde politique se tournent justement vers ces actions d'alphabétisation ou d'enseignement du français langue étrangère pour les migrants et s'y retrouvent, mais complètement. Donc allez-y, n'hésitez pas à devenir bénévole, rejoindre les équipes, parce que les demandes sont fortes. Vous parlez d'une centaine de migrants, c'est généralement les personnes en début d'année attendent énormément. Ouais, y a beaucoup de demandes.
On a reçu aussi en juin un projet qui maintenant est devenu une réalité d'accueil à l'université, typiquement dans le cadre de Sorbonne Université sur Jussieu. L'accueil aux exilés, aux migrants qui viennent avec un niveau scolaire qui est plutôt universitaire, mais qui ont souvent pas la langue, hein, et qui ont un cadre qui leur permet à la fois d'avoir un retour à l'établissement qui est celui d'une université et aussi l'apprentissage de la langue. Donc il faut du monde et du bénévolat dans tous les cas. Voilà, on revient encore à Floride. Bon, à chaque fois, on repart de ce que tu nous dis pour penser à autre chose. Mais tu nous parlais aussi de l'intérêt que vous avez eu pour la méthode. Tu avais envie de prendre, par exemple, un exemple d'une séance qui était la séance Se repérer,
oui.
Qui a bien marché.
Qui a bien marché, oui. C'était une séance donc, où il faut retrouver son chemin, demander son chemin. Et en même temps... Il y a un exercice sur la prononciation, sur le son U particulièrement, avec la rue Bunululu. Et c'est vrai que ça permet de travailler tout ce qui est phonologie au sein d'un thème. Et c'est donc des séances avec plusieurs phases qui sont imbriquées, vraiment.
Et donc là, comment ça se passe? Parce qu'on imagine, personnellement, je ne suis pas enseignant dans ce genre de choses, et comment est-ce qu'on se retrouve face à un public qui ne parle pas français? La communication se fait bien, justement, sur cet exercice?
Au début, c'était un petit peu difficile avec le groupe des jeunes Égyptiens, surtout que c'était des amis, c'était une bande d'amis. Et donc, ils sont arrivés au cours, c'était un peu difficile de briser la glace. C'était un petit peu difficile de... On n'a pas pu tout de suite inclure les jeux de rôle. C'était très prématuré. On a essayé. On s'est senti un peu seul. Et la communication était un petit peu difficile. Dans le cours, finalement, il faut vraiment gagner la confiance des étudiants pour pouvoir les emmener où on veut. Et ce qui est bien aussi dans la méthode Maclay Alpha, c'est qu'il y a des supports audio. Où vraiment, là, on met le CD... Et ça guide un peu la séance. Ça permet d'avoir une sorte d'outil où ils vont se concentrer. Ils vont se concentrer sur le son audio. Et c'est un peu plus facile, du coup, de leur proposer des exercices à partir de supports.
Juste une question pratique. Au début, dans les toutes premières séances, quand ils ne maîtrisent vraiment pas le français, comment vous faites pour leur donner les consignes, leur expliquer ce qu'on va faire?
Alors, les deux premières séances, on avait un interprète. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est vrai qu'on avait un interprète qui a expliqué l'objet du cours, qui a demandé aux apprenants leur envie, leurs besoins. Ça nous a facilité le début des cours.
Quand on n'a pas l'interprète, on fonctionne beaucoup par la gestuelle, par l'image et des pictos aussi de consignes, et on s'y retrouve. Il y a énormément de choses qui passent dans le non-verbal. La communication, c'est plus de 90% qui passe par le non-verbal. On peut se faire comprendre sans avoir les mots.
Et par le jeu aussi, qui tout le monde joue, c'est quand même très humain le jeu, l'humour aussi. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie d'ajouter sur toute cette méthode, tous ces cours?
Allez-y. Allez-y. Vous pouvez vous en emparer, l'enrichir, compléter. Ces rencontres avec ces personnes-là sont formidables.
Et je pense que c'est une bonne méthode pour des gens qui, comme moi, finalement, j'ai pas suivi de Master FLE. Et c'est une méthode qui guide beaucoup. Donc, pour ceux qui ont peur de ne pas avoir les compétences et qui se sentent pas légitimes de donner des cours de français, je pense que c'est une méthode qui guide tellement qu'on peut se lancer.
Oui, et en plus, c'est un bénévolat d'aide aux migrants qui ne mène pas à ce jour devant les tribunaux. Si on veut rebondir sur l'actualité qui a envoyé aujourd'hui au réquisitoire d'un tribunal pour des manifestants qui auraient plus ou moins sans preuve permis à des migrants de passer une frontière italienne et qui ont été aujourd'hui requis avec de la prison et même de la prison ferme, ce qui est quand même assez impressionnant. On espère évidemment que le tribunal ne va pas suivre le réquisitoire. Alors, on a terminé pour cette interview, mais Florine, tu nous parlais de l'association, donc le chapiteau Rajnawak, et elle a aussi une actualité qui est intéressante.
Oui, je voudrais juste préciser les horaires des cours. Donc, il y a des cours de yoga, c'est le lundi de 18h30 à 20h, 3 rue Ferdinand Gambon à Saint-Denis, de la boxe pour enfants le mardi de 18h à 19h, la boxe féminine, ensuite, de 19h à 21h, des cours de cirque le mercredi de 18h30 à 20h30. Et donc, prochainement, il y a plusieurs spectacles. Les Kesaj Chavé, c'est une troupe de chant et de danse qui réunit une vingtaine de jeunes artistes roms âgés de 6 à 25 ans. Et ce sera le samedi 8 décembre. Et ensuite, Circus Next et le chapiteau Rajnawak s'associent pour un spectacle qui s'appelle Les Inédits de Circus Next, qui est une action financée par la région Île-de-France et cofinancée par le programme Europe Créative de l'Union Européenne.
Il n'y a pas de mal, d'ailleurs, FPP va peut-être prendre aussi pied dans l'Europe.
Et ça, ce sera le 23 novembre à 19h30.
Ah, pardon, j'avais raté la date. Donc le 23 novembre, c'est le dernier spectacle, c'est-à-dire
oui.
Le titre
Circus Next et le chapiteau Rajnawak.
Voilà. Alors, ça entame notre agenda habituel de fin d'émission. Gaël ?
Oui, ça commence dès demain, avec à 17h, place de la Réunion, un rassemblement en soutien aux résistants de Bure. C'est le premier bal des malfaiteurs, avec un appel à réinstaurer des carnavals partout contre la répression et les séparations arbitraires. Donc, à 17h, place de la Réunion, à Paris 20e. Et à 20h, fête à l'écharde, 19 rue Garibaldi à Montreuil.
Si vous préférez chanter que danser, il y a les rencontres de chorales et des chants des luttes et chants révolutionnaires. Venez chanter avec nous, c'est organisé par la CNT et à la CNT, 33 rue des Vignoles à Paris.
Dimanche 11 novembre à 14h, place de la République, un rassemblement contre la venue de Trump à Paris.
Et oui, car le 11 novembre, c'est le 11 novembre, c'est la fête de la libération peut-être, mais c'est aussi une fête plus populaire et une journée de contre-commémoration 14-19 qui aura lieu grâce à la compagnie Jolimum en son lieu, c'est-à-dire la Belle Étoile, 14 Allée de Saint-Just à Saint-Denis. C'est très facile d'accès par le métro Fonds Populaire et RER B, la pleine Stade de France.
Lundi 12 novembre, c'est le jour de la grande manif de l'éducation. Donc à Paris, ça démarrera au Luxembourg, place Edmond Rostand. Ça démarre à 14h au Luxembourg, en direction du ministère.
Toujours lundi 12 novembre, au soir, au cinéma Les Sept Parnassiens, c'est le Ciné-Attaque de Paris 14, image mouvementée. C'est le projection débat La Stratégie du Choc, un documentaire réalisé par Michael Winterbottom et Matt Whitecross en 2010. La projection sera un débat avec présence de Dominique Plion, qui est porte-parole d'Attaque France.
Les 16, 17 et 18, un festival d'éducation populaire, Poussons les murs. C'est à Saint-Denis, donc au Clos Sauvage, 166 rue du Landy. Métro, Carrefour Pleyel ou RER, B ou D, Stade de France.
Et ce même samedi 17 novembre, si l'extrême droite vous effraie, vous pouvez aller vous former dans les locaux de Solidaire à Montreuil, 80-82 rue de Montreuil à Paris, pour les rencontres intersyndicales contre l'extrême droite avec Visa. Par exemple, comment réagir face aux violences de l'extrême droite, comment mener des luttes syndicales quand les fascistes sont au pouvoir, quel outil unitaire, quelle campagne mener sur les sujets. C'était le samedi 17 novembre. Marion a une date aussi.
Oui, il y a le jeudi 22 novembre à 19h30 au Forum des Images, il y a une projection du documentaire de Daniel Bouy, « Va voir le délégué », qui raconte justement comment des hommes et des femmes consacrent leur temps, leur énergie, leur intelligence pour la défense d'un syndicat.
Voilà, ça termine notre agenda et ça termine notre émission. On remercie nos invités Marion Aguilar pour son ouvrage Ma clé alpha et Florine qui nous a aussi rejoint pour nous parler du chapiteau Ranyawak et des cours d'alphabétisation qu'elle dispense à Saint-Denis. On avait à la chronique uniquement Gaël sur le plateau, mais nous avions aussi Jean-Marc à distance par enregistrement. Un petit coucou à Jean-Yves, bien entendu. Et puis à la technique, nous avions Ludo et Gilles. Et nous écoutons pour terminer Arthur H., la boxeuse amoureuse.
Regardez-la danser. Quand elle s'approche du ring,